Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ? Ils répondirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, et vous, que dites-vous ? Pour vous, qui suis-je ? Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi, je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux. Et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors, il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui, le Christ. On peut trouver un peu paradoxal la chute de cet évangile à l'instant où Jésus, après avoir demandé à ses apôtres ce que les gens disent sur lui, après avoir fait dire à Pierre qu'il est le Christ, le Fils du Dieu vivant, leur dit de ne pas le répéter, surtout ne pas le dire, se taire. On a l'impression d'être à l'envers de l'évangélisation. C'est qu'il y a quelques risques dans l'esprit des gens, en particulier des Juifs, par rapport au type de Messie que Jésus doit être, où beaucoup s'imaginaient un Messie puissant, un Messie militaire, un Messie royal, un Messie sacerdotal, que sais-je encore, en tout cas quelqu'un proche du pouvoir et plein de pouvoir. Et Jésus sera un Messie humilié, un Messie crucifié, et il va tenter pendant 3 ans de faire passer le message auprès de ses disciples, mais sans y parvenir. Ce qui est intéressant dans cette deuxième partie de l'évangile ici, c'est que ce que Jésus dit à Pierre, où il lui fait des révélations et des promesses. Il n'y a que dans cet évangile de saint Matthieu que vous trouvez ces paroles de Jésus, et elles contiennent un pronom possessif tout à fait particulier, mon Église. C'est la seule fois où Jésus dit « mon Église ». Et Jésus va dire 3 choses importantes, me semble-t-il. La première, c'est que Pierre et ses successeurs, Pierre est celui qui est, au fond, le principe même de l'unité de l'Église. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église. L'Église est bâtie, construite sur Pierre qui en assure l'unité en profondeur. C'est important de se le redire parce qu'aujourd'hui, on est un petit peu dans une perspective de croyance à la carte, où chacun se fait un petit peu ses propres opinions et l'impact de conception protestante ou évangélique n'est pas neutre, car beaucoup aujourd'hui font un peu leur propre salade, et quand il y a des églises évangéliques proches, ce qui n'est pas tellement le cas ici, mais se rendent tantôt à la messe, tantôt à l'assemblée, et il est important de dire que ce n'est pas neutre de considérer l'Église comme étant fondée sur Pierre ou pas du tout. Pour beaucoup de protestants ou d'évangéliques, ces paroles de Jésus ne s'adressaient qu'à Pierre. Elles ne concernent pas les successeurs. Et donc, il y a une différence majeure ici. Je dirais aussi qu'il y a un petit problème avec les orthodoxes à ce sujet, qui qui considèrent que le pape n'est que le premier d'entre eux, mais en tout cas pas celui qui est le successeur de Pierre directement. Qu'est-ce que Jésus dit exactement? Que vraiment l'Église trouvera son unité si elle reste en lien avec Pierre et le successeur de Pierre. Voilà la première chose qui est dite, et elle a son importance. La seconde chose qui est dite, c'est que, à cause de cela sans doute, l'Église a les promesses de la vie éternelle. Les puissances de la mort ne l'emporteront pas sur elle, dit Jésus. Elle sera certainement persécutée et vraiment devra subir les assauts du mal, mais cependant, elle traversera les siècles jusqu'au bout. Alors il faut qu'on ait évidemment l'esprit assez souple pour considérer que l'Église se transforme au fil des siècles. Elle opère des mues, M-U-E-S, qui facilitent son adaptation aux transformations de la société, mais tout en gardant le message intact. C'est important. Je lisais encore dans un mail cette semaine, quelqu'un me parlait de la secte de Vatican II. Je lui dis, excusez-moi, mais ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne fais pas partie d'une secte. Je respecte vos opinions, mais quand il y a 2500 évêques qui sont réunis en concile, ce n'est pas une secte. Voilà. L'Église se transforme à certains moments, adapte un certain nombre de choses, mais garde le message évangélique et doctrinal intact tout au long de la transmission au cours des siècles. Et Jésus dit donc, les puissances de la mort ne l'emportera pas sur elle. Nous n'avons pas à craindre que l'Église disparaisse. Nous pouvons toujours penser que la forme que nous connaissons aujourd'hui peut-être un jour disparaîtra en tant que telle, sous forme paroissiale telle que nous les connaissons actuellement, mais l'Église demeurera, elle a les promesses de la vie éternelle. Enfin, une troisième chose que Jésus dit à Pierre directement, c'est « Je te donnerai les clés du royaume des cieux ». Je te donnerai les clés du royaume des cieux. C'est une parole claire, ça. On sait ce que c'est que d'avoir les clés de sa maison, ça permet d'entrer, ça permet d'être chez soi. Et ça veut dire que Jésus dit que Pierre est celui qui va faire entrer les enfants de Dieu dans le royaume où nous serons chez nous. Et puis il y a un deuxième sens, c'est que le pouvoir des clés, c'est aussi un pouvoir doctrinal, un pouvoir judiciaire. Et donc, il est dit, tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Ce sont vraiment des paroles très fortes. Et l'image des clés, évidemment, est reprise dans la première lecture qu'on est allé chercher pour l'harmoniser avec l'Évangile, où il est question du gouverneur de la ville de Jérusalem à une certaine époque, où Isaïe est chargé de lui dire... Eh bien, tu vas céder ta place à quelqu'un d'autre qui s'appellera Eliakim, et parce que tu n'es pas fidèle à ta mission de prendre soin du peuple. Voilà. En tout cas, la parole de Jésus concernant Pierre, la troisième parole, c'est celle sur les clés, sur le pouvoir de Pierre, qui n'est pas un pouvoir total. Il y a beaucoup de gens qui ont des idées fausses sur l'infaillibilité pontificale, par exemple, qui pensent que toutes les paroles du pape sont infaillibles. C'est totalement faux. Le Concile Vatican I a défini l'infaillibilité pontificale en l'insérant dans des catégories très spécifiques, et toutes les paroles du pape ne sont pas du tout infaillibles, ce qui permet au pape François de faire des sorties, notamment en altitude quand il est dans l'avion et qu'il donne une interview, qui crée quelques remous journalistiques et médiatiques dans la suite. Mais ce ne sont pas des paroles infaillibles, précisément. Il émet des opinions, son opinion en tant que pape chargé de l'Église. Retenons ces trois choses que Jésus dit à Pierre et à l'Église et à nous-mêmes, à savoir qu'il a voulu bâtir son Église sur Pierre et que nous devons respecter ce qu'il a fait, cette sagesse qui est la sienne. La deuxième, c'est que l'Église a les promesses de la vie éternelle. Et la troisième, c'est que le pape a pouvoir, le pouvoir des clés et pouvoir de nous faire entrer dans le royaume et aussi de prendre certaines décisions importantes pour le bien du peuple de Dieu. Et que ces décisions sont avalisées dans le royaume.